Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw, nous sommes le 10 octobre 2022, après un week-end incroyable, Extreme Rules. C'est l'heure de voir et de vivre ensemble les répercussions de ce PLE. Et pour analyser avec moi cet épisode du show rouge, j'ai avec moi l'indispensable Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
J'ai oublié de préciser que c'était une season première aussi.
Et oui, c'est une season première, c'est le début de la nouvelle saison.
Voilà, donc peut-être des nouvelles rivalités, des nouveaux enjeux, des nouveaux catcheurs, des nouvelles catcheuses. Bref, beaucoup de surprises qui nous attendent. Et ce sont tout simplement les membres de la DX qui ont presque ouvert le show. Disons qu'ils étaient backstage, évidemment, puisque Triple H est dorénavant aux commandes de l'émission. Il est donc dans la Gorilla Position. Ça se chambre pas mal, on fait des petits rappels. Historique, notamment des blagues dorénavant interdites hein, sur les pénis. On n'a pas le droit de dire le mot pénis, on n'a pas le droit de jurer. Triple H essaye un petit peu de calmer ses gars sûrs. Voilà, il y a des poulets en plastique. Bref, on fait plein de petits rappels, de petits clins d'œil à toutes les conneries que la DX nous a offert, mais on va les laisser là puisqu'on les retrouvera en main event. Hein. Ils ont carrément fait l'opener et le main event, les papis du ring.
Ouais, bon, ils sont pas chiés. Hein.
Ils sont pas chiés. C'est leurs 25 ans. C'est les 25 ans de la DX.
Ils ont bien mérité.
En main event. Et comme tu l'as dit, ils ont bien mérité. Et nous, on a bien mérité aussi de découvrir un nouveau commentateur. Il s'appelle Kevin Patrick.
KP.
Voilà, KP. Donc, vous le connaissez. Hein, c'est cet intervieweur un petit peu qui se faisait un petit peu bully par tout le monde. Hein. Je ne sais pas comment il a fait pour trouver sa place jusqu'à la table des annonceurs.
Je ne sais pas qui l'a recommandé, en effet, parce qu'il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'amis.
Mais... bon, tout le monde savait que ça s'appelait Kevin. Moi, bon, personne ne savait que ça s'appelait Patrick, la preuve. Moi, je ne savais pas, je croyais que ça s'appelait Pratique. Mais effectivement, KP, comme Giscal l'appelle, rejoint donc Corey Graves. Et c'est donc notre nouveau duo incroyable. On salue donc la bise à Jimmy Smith, hein, qui nous a quittés. Un petit ange parti trop tôt.
C'est ça.
La Bloodline. Giscal, tu as dû avoir le frisson quand le theme song de la Bloodline a retenti.
Magnifique, rien de tel pour ouvrir une émission que la Bloodline. Et cette entrée, là, combien ils sont maintenant ? Attends, il y a les trois cousins, Roman Reigns, ils sont six là, ouais, ça commence à devenir stylé là.
Ouais, c'est très 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 stylé. Évidemment, à l'horizon, c'est la rivalité, le match hein, contre Logan Paul. On demande à Brooklyn, puisque nous sommes à Brooklyn dans le Barclays Center, New York, donc grosse ambiance, hein, comme toujours. Roman demande à Brooklyn de le reconnaître, de le acknowledge. C'est la folie, tout le monde lève son doigt en l'air. Pip pip, hurrah pour la tête de la table. Mais Roman, il y a un truc qu'il travaille, il repense à vendredi et quelque chose que son père lui a appris il y a longtemps, c'est que, grosso modo, celui qui parle le plus fort, c'est celui qui est le plus faible. Grosso modo, un grande gueule. Si t'es une grande gueule, c'est que tu n'es pas sûr de ton coup, c'est que tu es le plus faible. Et le plus faible
dans
la pièce, dans la salle, c'est quelqu'un. Et que si t'es le plus faible dans la pièce et que tu fais partie de la Bloodline, et ben ça fait toi un idiot, quoi, une arnaque finalement. Et donc, il s'adresse à Jey Uso et il lui demande s'il est bidon. S'il est bidon, en fait, tout simplement. Parce que. On a déjà passé par là, on a déjà discuté, qu'est-ce que tu fous ? Et là, Sami Zayn interrompt le chef tribal. Alors le public est en folie, hein, évidemment. Sami Zayn prend la parole en tant que modérateur officiel de la Bloodline. Paul Emmanuel était complètement taré. Mon vieux, il faut arrêter de faire ça. Roman lui dit « Non, mais c'est bon. » Et là, Sami dit « Écoute, vendredi, c'est vrai, tu as dit que je devais que Jey était mon problème. Hein, Jey, c'est le problème de Sami maintenant et qui doit donc, en tant que membre honoraire de House Honoraire, il doit gérer la situation. » Il dit « Bah écoute, vas-y, go ahead, gère ton cas, gère le cas Jey. » Donc, Sami dit à Jey « Bon, bah voilà, on t'aime tous, tu fais partie de la famille. Bon, la nuit dernière, j'ai pas mal discuté avec Roman sur le futur de la Bloodline et on s'est dit que voilà, ton comportement, c'était pas très UC, quoi, c'était pas très Uso compatible. Donc, c'est pas bien, mais regarde Jimmy, là. Tout le monde adore Jimmy. Alors, Jimmy, il a un grand sourire et tout le monde applaudit. C'est excellent. Mais, ah, Jimmy, regardez-moi ce beau sourire, comme il est beau. Il a failli lui mettre les 8 heures de la joue comme ça, comme une grand-mère, là, qui comme il est beau, comme il est beau.
Et puis il lâche leur check secret, là. Ça, c'est exceptionnel, ça.
Génial, ouais. Qui est plus très secret, mais ils le font très, très bien.
Non, il est plus très secret.
Et un petit mot pour Solo Sikoa aussi, bon, lui qui est très, très sérieux, mais il est quand même cool. Mais le gars qui est pas cool, bah, c'est Jay, quoi. Alors, Jay, est-ce que tu peux essayer d'être cool? Tu peux faire ça pour nous, s'il te plaît? Bon, Jay, intérieurement, il fulmine, évidemment. Et là, il y a la tension qui monte, hein, Giscal, quand même. Parce que Jay, oui, il regarde Roman droit dans les yeux, il dit, mais attends, c'est une blague ou quoi, là? Enfin, vraiment, il est pas content. Sammy l'interrompt encore une fois et puis il se fait interrompre cette fois-ci par Matt Riddle. Lui dit bah écoute, lui et Roman, ils ont une stipule comme quoi il peut plus le défier pour le titre. J'avais complètement oublié, je sais pas si tu t'en souvenais, toi.
Ah si, toi t'es pas attentif, toi.
Non, si, je me fais engueuler. Je suis le maillon faible.
C'est scandaleux. Tu es de foule, je pense, là. Hein. C'est pas normal, ça.
Et pourquoi pas avoir. Bon, bref, il propose une bagarre, quoi, un bon match. Et, la foule, évidemment, est derrière. Mais on a des chants.
Sonde le public.
Voilà, on sonde le public. Qui va aller défier la. Qui va représenter la Bloodline? Et tout le monde chante Sabi. Et Jay est bien content, il dit, bah oui, allez, vas-y, t'as qu'à y aller, toi. C'est une bonne idée, effectivement. Et donc, on nous book un match Sammy versus Riddle pour ce soir. Mon bon Giscal, encore un petit bijou, là, de la part de la Bloodline.
Ouais. Exceptionnel, ce segment. Je pense que je ne me suis pas autant marré sur un segment d'intro de Weekly depuis une éternité. C'est génial. Franchement, j'applaudis. Il y a le jeu d'acteur, évidemment. Hein. Tout le monde est au top. Bon, Sami Zayn marche sur l'eau. Il est exceptionnel. Je pense que il est en train. Je sais plus sur quel réseau, sur Reddit, sur Twitter, je sais plus. Mais j'ai lu des commentaires de gens qui disaient qu'il était en train d'atteindre les niveaux d'overitude de Daniel Bryan d'il y a 4-5 ans. Je pense que en effet, il est sur cette trajectoire-là. C'est incroyable le travail de le travail de caractère, enfin de ça c'est un anglicisme sur son personnage qu'ils ont fait là depuis plusieurs semaines et à quel point il incarne à la perfection ce misfit, ce mec qui n'est pas du tout à sa place et qui se croit partie d'un gang et qui essaye d'en reprendre les codes et qui est super attachant et en même temps ridicule et enfin c'est vraiment je trouve c'est incroyable et y a un truc que je trouve exceptionnel dans les segments de la Bloodline aussi. C'est là où on voit que en fait on touche vraiment au paroxysme, je trouve, de l'écriture et du booking d'une stable, d'un gang, d'un groupe. C'est que c'est très difficile, je trouve, d'arriver à détacher vraiment et à dessiner les contours de chaque personnage, de chaque caractère, de chaque personnage de la stable. Généralement, voilà, dans un groupe, il y a toujours un petit peu des maillons faibles, il y a des mecs qui sont plus en retrait, il y a des gars où on ne sait pas trop si tu devais dire, voilà, c'est quoi leur trait de caractère, c'est quoi leur personnage, tu ne sais pas toujours définir, il y a toujours un peu des laquais. Là, je trouve que la Bloodline, maintenant, ça fait plusieurs semaines qu'ils ont vraiment travaillé là-dessus. Chaque membre de la Bloodline a son personnage, a son intérêt dans le groupe, a sa place. Donc ça, en fait, ça rend les segments super agréable à suivre parce que c'est une vraie petite histoire familiale. À chaque fois, c'est des petits segments où ils te happent dans leur histoire interne. Et ça fait que ça rend le groupe infiniment plus intéressant parce que du coup, il est plus seulement dans l'interaction avec l'extérieur, avec les rivalités de Roman Reigns versus machin ou des Usos versus machin. Il y a aussi la dimension interne et toutes les histoires qui se passent en interne. Et c'est une vraie petite sitcom. C'est juste trop drôle à suivre. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est ce Jey Uso qui, pendant des semaines, a été le ronchon à pas vouloir faire rentrer Sami Zayn dans la famille. Maintenant, il se retrouve quasiment ostracisé par celui qui est le moins Uso de tous, qui est en train de lui donner, qui est en train de lui faire la morale avec l'aval de Roman Reigns. Donc c'est terrible, ouais. Tu vois. Et donc c'est ça qui est énorme. Et tu le vois, quand il dit Roman Reigns, il le regarde dans les yeux et il fait « Attends, tu déconnes là, c'est une blague. »
Comme si on faisait semblant depuis le début.
Oui,
là,
c'est une mise en scène, c'est une caméra cachée et tout. Enfin, c'est, bref, tout sonne super juste, c'est super drôle. J'ai quand même l'impression que derrière tout ça, bon, il y a évidemment le face turn inévitable de Sami Zayn qui arrivera en bout de course. Ouais. J'ai quand même l'impression qu'on est en train de préparer le terrain quand même pour Roman Reigns aussi. Je trouve qu'il y a il y a un glissement dans son attitude. Le fait qu'il ait pris Sami Zayn sous son aile, tu sais, genre c'est on a l'impression que voilà, au début il était très sérieux, enfin tu pouvais pas rigoler avec Roman Reigns, et là je sais pas, il y a l'impression que Sami Zayn l'a attendri et maintenant il s'autorise voilà à rigoler, à être un petit peu plus en retrait, cool, il se penche sur les cordes, c'est pendant que Sami Zayn parle, lui il se relaxe, il se met un peu en arrière, tu vois. Voilà, on sent que mais c'est ça qui est génial dans ces
segments. Il y a deux directions possibles, c'est-à-dire que
ouais, exactement.
Soit effectivement on va vers un face turn très naturel de la part de Roman Reigns également, tu as dit, entraîné par le face turn très naturel de notre ami canadien, ou alors, comme on disait il y a quelques semaines, à la fin, le roi
oui, peut-être que le roi coupera la tête
du fou. Oui,
voilà. Et il lui coupera la tête. Ouais, en effet, il y a plusieurs choses qui sont possibles, mais enfin voilà, c'est génial à suivre. J'applaudis autant le jeu d'acteur que la qualité et le soin d'écriture de ces segments, où il se passe plein de choses et ça rend en fait la stable indispensable à l'émission parce qu'il se passe se passe tellement de choses autour d'eux. Alors voilà, après c'est aussi ça a les inconvénients de ses avantages, c'est que
ils deviennent
tellement indispensables que chaque show où ils sont pas là, bah il y a un gros trou quoi. Et voilà, on l'a vu à Extreme Rules et on l'a vu aussi par le passé quand il y a des Raw, des SmackDown où ils sont pas là, c'est compliqué. Mais quand ils sont là, c'est caviar quoi.
C'est caviar. Moi, ce que j'apprécie aussi beaucoup, et on le verra d'ailleurs dans ce qui va se passer autour de ce fameux match entre Riddle et Sami Zayn, c'est un peu ce changement presque chaque semaine de rapport de force, si tu veux, hein, vraiment de positionnement. Là, clairement, Jay, oh, il était en train de se faire soumettre, soumis lors de leur précédente intervention avec Roman Reigns, qui l'avait, enfin c'était animal, hein, la façon dont il soumettait Jay la semaine dernière, c'était assez dingue.
Mais là, il est humilié là.
Là oui, il est humilié. Terrible. Et comment il arrive à se rattraper sur ah mais oui évidemment Sami, vas-y toi, genre qui va son match, tu veux gérer le truc. Donc toi qui imagine déjà pouvoir donner une bonne leçon à ce rouquin là
ce sera très très bien ce sera très bien exploité pendant le match d'ailleurs, mais ça on en reparlera après
On en reparlera tout à l'heure. En attendant, un autre match avec un homme qui avait croisé la route de Roman Reigns, c'est Austin Theory, notre plus jeune porteur de mallette Money in the Bank. Ce soir il a un match contre Papa Johnny Gargano, un match évidemment très attendu par notre papy à nous ici en interne. Un match assez clean entre les deux hommes. On a les deux hommes qui se rendent dessus dès que la cloche a sonné. Theory qui utilise le côté très physique, qui fait parler le côté très physique de son offensive. Gargano un peu plus d'expérience et un peu plus de vitesse qui lui permet également de tenir tête au plus jeune champion des États-Unis à l'époque, on se souvient encore. Et puis il y a d'ailleurs plusieurs prises d'Austin Theory, qu'Austin Theory emprunte à Johnny Gargano, par provocation une fois de plus. Hein, il n'est pas encore très, il n'a pas atteint le stade de maturité ultime. Hein, notre Austin Theory, il fait encore preuve d'erreur de jeunesse, même si là, il a vraiment envie d'y aller. Il a vraiment envie de disposer de Gargano. Mais au final, c'est la victoire de Johnny, assez clean d'ailleurs, en faisant son slingshot
clean,
depuis l'extérieur pour le tomber, assez inattendu d'ailleurs parce que c'est même pas son finisher, mais Austin Theory est sonné et il est sonné pour 3 secondes, 1, 2, 3, et donc une victoire de Johnny Gargano au grand détriment de Papy. Là, c'est marrant cette construction. Finalement, ce match perdu pour Austin Theory est plutôt positif pour lui. J'imagine que dans le sens où on l'imagine vouloir laver cet affront, ou c'est plutôt mauvais signe.
Bah, Ouais, j'avais un peu les dents qui grinçaient quand même sur ce segment. Hein. J'étais pas, c'est pas très fan parce que positif pour Austin Theory, justement, je sais pas trop là comment. Je sais pas ce qu'ils ont trop en tête avec Austin Theory. Il y a deux dimensions un peu à ça qui m'embêtent. C'est la dimension un peu du personnage d'Austin Theory. C'est-à-dire que j'ai quand même le sentiment depuis plusieurs semaines qu'il est un peu sous l'été noir, le garçon. C'est-à-dire qu'il était chaud comme la braise il y a quelques mois avant le Money in the Bank. Après le Money in the Bank, évidemment aussi. J'aimais bien cette spirale négative il tourne autour de la ceinture, mais il échoue à chaque fois qu'il arrive. Il est globalement à chaque fois mis en échec aussi, un petit peu dans des interactions autour d'autres rivalités. Ça a été le cas avec la Alpha Academy et d'autres sujets avec AJ Styles, avec Dolph Ziggler et tout. Enfin, ouais. Je trouvais que c'était pas inintéressant de se dire, ok, le mec, ça faisait un peu partie de son développement de personnage, je trouve. Il se voit beaucoup trop beau, c'est un gamin ultra arrogant, et en même temps, il a gagné la mallette, donc voilà. Mais ça, je trouvais que la spirale négative pouvait avoir un petit intérêt si justement on se rendait compte que peut-être il se mettait tout seul en danger et que sa mallette allait peut-être aussi devenir un fardeau pour lui. Sauf que là, en fait, il est dans une spirale négative quasiment systématique, générale, même dans son catch. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément fan, par contre, de le voir perdre des 1v1 clean comme ça. C'est ouais. Quelque chose de perdre des 3 contre 3, des trucs autour du ring, de rater ses cash-ins. De perdre des 1v1 clean, c'est un petit peu emmerdant, je trouve. Et je trouve que ça casse un peu... Enfin là, je trouve qu'on a vraiment un peu cassé son momentum. Même au niveau de sa hit, je trouve qu'il fait un petit peu moins réagir, ce qui est relativement normal, hein, parce que de moins en moins, c'est une menace, en fait. Donc c'est un peu dur. Et puis après, il y a même au sein de la rivalité avec Johnny Gargano, je comprends pas non plus trop l'écriture, parce que ouais, t'as dit, ouais, est-ce que c'est positif parce qu'il va vouloir laver l'affront ? Ah, le problème, c'est que c'est un heal, donc un heal, laver l'affront, on s'en fout un peu. Là, pour l'instant, tout ce qu'on fait depuis plusieurs semaines, c'est plutôt de valider le discours de Johnny Gargano. Et donc, en fait, au final, quel intérêt aurait cette histoire, puisque Johnny Gargano semble avoir raison depuis le début. Et en plus, maintenant, il le bat. Et il le bat sans coup férir. C'était 8 minutes. Non pas que ça a été un squash, mais au final, voilà, il n'a pas non plus transpiré des masses. Hein. Donc je comprends pas trop la direction. C'est-à-dire que là, voilà, Gargano, il est arrivé en disant que il allait se refaire la place dans le roster et en quelque sorte donner un petit peu la leçon à son jeune Padawan qui l'a ramené un peu trop. Bah voilà, il l'a fait. Donc où va la rivalité derrière ? Hormis en effet que le heel finalement reviennent dans la partie, mais c'est plutôt une dynamique quand même assez face, hein, de démarrer d'en bas et d'essayer de réaffirmer finalement sa suprématie, quoi. Donc je suis pas con, vraiment pas fan de ce segment, même si ça nous a donné un match cool. Mais même le match, enfin franchement, Johnny Gargano, Austin Theory, clean, sans intervention, premier match entre les deux, comme ça au milieu d'un début de Raw.
Ouais, c'est bizarre ça.
Pareil, je suis pas très fan non plus, quoi.
Ouais, non, je suis d'accord. Bah écoute, c'est vrai qu'on peut être dubitatif là après cette séquence qui est peut-être un premier gros caillou très visible sur ce chemin là de croix qui semble attendre un petit peu Austin Theory, qui effectivement avait tendance à briller quand il s'est retrouvé face à Kevin Owens et Roman Reigns.
Notamment Kevin Owens.
Au micro qu'il avait vraiment et qui surtout faisait évoluer le personnage et qui rendait le personnage, enrichissait le personnage. Là, c'est vrai que ce match-là, c'est comme finalement toutes ces choses-là n'avaient jamais eu lieu.
Ouais,
on a l'Austin Theory d'il y a 6 mois, quoi.
J'ai l'impression qu'on déconstruit un petit peu le travail, quoi. Alors après, voilà, il y a pas de dramatisme. Enfin, c'est pas dramatique non plus, mais en effet, c'est un peu ça l'idée, quoi.
Ouais, peut-être on a peut-être juste mis ce match-là pour comment dire, sous prétexte du season premier, toi, parce que c'était une des rivalités.
Ouais, c'est un beau match. Hein.
C'est vrai que finalement, on voit pas trop là où ils veulent en venir. Écoute, on leur posera la question la semaine prochaine.
Bah oui, de toute façon, le courrier, moi j'envoie des lettres toutes les semaines, hein, pour avoir des réponses comme ça. Donc, j'ai pas de réponse, hein, mais ouais.
Allez, un autre match, on est suivi. Tu parlais de l'Alpha Academy qui ne sont pas venus en aide à Austin Theory. Bah, là, peut-être la raison, c'est que Chad Gable affrontait Rey Mysterio ce soir. On a vu d'ailleurs l'acteur qui interprète Young Rock dans la série du même nom.
Ouais.
Voilà, et qui est plutôt legit, plutôt plausible dans son rôle. Donc, jeter un petit coup d'œil.
Ok. T'as été séduit.
Bon, écoute, ouais. il fait pas aussi bien le V de sourcil arqué. Que le The OG Rock, mais bon, écoute, c'est un acteur, donc il travaille. Bon, bah, un match, écoute, qui, pareil, n'aura pas duré très longtemps. Globalement, tous les matchs ont duré moins longtemps que d'habitude, au bonheur de ceux qui trouvaient que les matchs duraient beaucoup trop longtemps. Donc, le match a été assez court, et là, c'est un petit peu pareil, peut-être, que dans le match qu'on a vu juste avant, où finalement, on a offert à Rey Mysterio une victoire sans trop de difficultés face à Chad Gable. On a une belle séquence de rapidité technique entre les deux gabarits là, entre le vétéran et bon, il est plus tout jeune Chad Gable, mais voilà, et puis le petit jeune qui en veut. On est quand même une petite distraction hein, de Dominique et Ripley pendant le match. Et puis on avait aussi Otis hein, évidemment qui était là, mais malgré tout ça, Mysterio a remporté donc ce match sans trop de grandes difficultés finalement. Et à ce moment-là, son fils s'approche, hein, Dominique, et il essaye de lancer la bagarre, quoi. Il essaye de le démarrer. Hein, sauf que ça ne veut pas démarrer, il veut pas, hein, Rey Mysterio veut toujours pas. Alors il lui met une grosse claque dans la tronche à son paternel, il lui gueule dessus, il y a toute la rage. Platypa que Finn Balor et Damien débarquent, donc il s'en débarrasse jusqu'à ce que Dominique revienne lui mettre une grosse lariat là pour encore le coucher. Et puis Rey Mysterio, on se dit à ce moment-là, mais il va craquer, et il a les yeux. Mais plein de larmes, plein de... C'est un mélange. C'était l'Actor Studio, là. Moi, Rey Mysterio, il m'a touché en plein cœur, là. Je trouvais que ça faisait... C'était la première fois qu'il m'a fait ressentir quelque chose, Rey Mysterio, dans cette rivalité, où il n'avait pas l'air d'être un gros bêta. Il avait l'air triste et en colère à son fils, là, dans ce face-à-face. Et puis, bah, quand il s'en va, Dominique l'attaque par derrière. Et en plus, comble du déshonneur ou de l'affront, il place un 619... sur son paternel. Écoute, Rey Mysterio, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais là, je me demande s'il ne s'est pas demandé si son fils pensait vraiment ce qu'il disait, en fait. Il a dû se rendre compte. En fait, c'est pour de vrai, il me déteste vraiment.
Je ne sais pas, mais c'est vrai que tu as raison de souligner le travail, l'acting, l'incarnation de Rey Mysterio moi personnellement ça m'a touché aussi beaucoup Et puis en plus après coup ils nous ont montré des images en mode rediff un peu post-match où on le voit mais là pour le coup vraiment en larmes assis au bord du ring avant de partir et c'est vrai que c'est assez dingue d'arriver à canaliser des émotions pareilles comme ça et d'arriver à alterner enfin à mêler la rage la stupéfaction et la tristesse comme ça à ce point-là, donc c'était très touchant. Après, concrètement, voilà, je pense que pour beaucoup de gens, c'est un peu du tout ou rien ce type de segment. Hein. Je pense qu'il y en a certains, ils sont pas là pour ça et ça va leur en faire bouger une sans toucher l'autre et ils s'en foutent un peu et ils voudraient que ça se castagne. Moi, j'avoue que je suis assez sensible aussi à ce côté très soap-opéra, telenovela un peu là. C'est très sentimental, c'est très surjoué, mais je trouve que c'est bien fait, que c'est fait avec les bonnes personnes et cette histoire père-fils, moi, elle m'accroche bien et je trouve que Rey Mysterio, voilà, ça me fend mon cœur de petit luchador de le voir comme ça là, c'est terrible. Et c'est bien fait. Je trouve qu'il y a une belle gradation depuis plusieurs semaines. Là maintenant, voilà, Dominique a vraiment franchi un cap depuis Extreme Rules. On l'avait dit, hein, il y avait une tension qui se construisait. C'était depuis la trahison, il n'y avait pas eu vraiment d'altercation physique. Maintenant, Dominique Mysterio, à Extreme Rules, était rentré dedans. Là, il a fait plus que lui rentrer dedans. Là, c'était 3, 4, 5 fois. Donc là, ça y est, la ligne rouge est complètement franchie. Les vannes sont ouvertes. Et maintenant, on va attendre, en effet, de voir qu'est-ce qui va faire craquer le père, quoi. Qu'est-ce qui va faire qu'il va tout mettre à la poubelle pour donner une bonne leçon à son fils. La seule limitation que je donnerais à ça, c'est je pense, par contre, qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que voilà, ça reste un show de catch, ça reste un show de castagne, de mecs, de gros mecs qui se foutent sur la tronche. Voir Rey Mysterio pleurer toutes les semaines et se faire victimiser, c'est-à-dire que voilà, je pense que là c'était un segment qui était vraiment vraiment bien pour véhiculer toute la bah toute la tristesse et le désespoir, le désarroi de Rey Mysterio. Et maintenant, il va falloir sans doute changer de braquet pour la suite et nous amener vers la confrontation, sans peut-être, je pense, trop répéter ce type de segment qui, en tout cas, voilà, moi, cette semaine m'a beaucoup plu et j'ai trouvé très bien fait une nouvelle fois, comme à Extreme Rules avec toute la dramaturgie de Quick Match. Là, encore une fois, il y avait beaucoup d'ingrédients qui faisaient mouche, j'ai trouvé. Donc, c'était vraiment bien.
Les ingrédients, d'ailleurs, Giscal, vu que tu les aimes, ils sont restés sur le ring, Judgment Day.
Oui.
Après leur méfait, ils sont restés. Alors, on a Rhea Ripley qui avait un beau petit brassard à la mémoire de Beth Phoenix.
Bah oui, oui.
Le petit brassard noir, là, en l'honneur de Beth Phoenix. Enfin, il était blanc, mais vous avez compris l'idée. Voilà, on lui souhaite prompt rétablissement. À Beth, évidemment, nos cœurs sont avec elle. Et puis, bah voilà, ça se gargarise d'avoir réussi à se défaire de Edge, à l'avoir fait abandonner hein, ce week-end à Extreme Rules.
Voilà, grosse hit. Hein.
Ah ouais, grosse hit. Ça, ils savent faire le Judgment Day. Ils sont dans leur élément, ils sont là, tu sais, à la cool, à se taper, comme ça, ils sont contents. Voilà, ah, tu les as bien nus, là, tu les as bien mouchés avec ta petite réplique, avec ta petite promo.
Ça se ouais, c'est ça, ils s'autocongratulent tout le temps.
Ouais,
là,
ouais, ouais, les mecs, ils se touchent, ils se autocongratulent, ils prennent des...
Ouais, génial, cette vanne, bien joué, mec, et tout.
C'est vraiment, ils sont vraiment... Là, ils ont trouvé...
Non, mais ils ont trouvé leur truc.
Ouais. Ouais. Exactement. Voilà, un Finn Balor qui a gâché la fête. Et puis, voilà, après avoir bien, après s'être bien carriérisé, c'est au tour de Rhea de dire que elle a, voilà, l'envoyé, elle est bien contente d'avoir envoyé Beth à la morgue, parce que ce n'est qu'une, elle n'est que l'ombre de ce qu'elle était. Enfin, c'était non, elle a juste montré un aperçu de ce quoi. De ce à quoi Rhea était capable. On parle beaucoup hein, sur le Discord de ce dont Rhea est capable et on la voit beaucoup peut-être comme étant celle qui va faire tomber peut-être notre amie Bianca Belair. Mais on en parlera plus tard, on a le temps parce que c'est pas encore le sujet. Là, Dominique qui prend le micro. Du coup, la reine Brooklyn explose sous les huées. C'est un tonnerre de merde qui s'abat sur Dominique Mysterio et il kiffe bien. Et puis il dit la seule chose qui était meilleure que de voir Rhea Ripley mettre un concerto sur Beth Phoenix, c'était de foutre un 619 à son père.
Ouais.
Je sais même pas s'il dit père ou s'il dit Ray, toi. Je sais même pas est-ce qu'il l'appelle encore papa.
Ouais, j'ai pas dit.
Je fasse attention la prochaine fois. Tu sais, quand les ados veulent vraiment plus rien avoir avec leurs parents, ils commencent à l'appeler par leur prénom.
Ouais, c'est pas bon signe, ça.
Et donc, voilà, tout le monde est content. Finn Balor dit que c'est temps, il est temps de parler de AJ Styles. L'oncle Alan. Ah, visiblement, oncle Alan, on l'appelle tonton Alan. Il y a beaucoup de tontons, hein. C'est une sorte de famille, hein, tout ça. Qui n'a toujours pas... voilà, il y a un ultimatum pour AJ Styles. Il doit tout simplement dire s'il veut rejoindre, enfin accepter l'invitation de Finn Balor à aller rejoindre Judgment Day. Ça fait plusieurs semaines qu'il se tourne autour. AJ débarque et il raconte que effectivement Finn a raison et il commence à parler d'amitié. Il était tout seul, il a besoin de poteaux, il a besoin de famille. On est des frangins et il s'agenouille devant Finn Balor. Le public là, oh non, quoi là, qu'est-ce qui se passe? Bouh, bouh, bouh. Et quand ils se font un gros hug, un gros câlin, ils chuchotent à l'oreille de Finn Balor que je ne parlais pas de toi, quoi, je parlais d'amis, que j'avais besoin d'amis. Et là, la musique des Good Brothers, Gallows et Anderson, les vieux poteaux de AJ Styles, mais qui sont aussi les vieux poteaux de Finn Balor, débarquent et c'est la grosse bagarre, la nouvelle rivalité qui se met en place entre les deux factions. Un nouveau programme déjà là pour le Judgment Day, on enchaîne, hein, toi, on enchaîne.
Eh oui, on enchaîne, ça n'arrête pas. Le Judgment Day, c'est chaud, hein. Ça prend de la place en ce moment, c'est chaud, ça marche bien, ça y est, hein. Voilà, on l'a dit, hein. ça fait maintenant quelques semaines qu'on est à... En tout cas que nous, on fait partie des gens un peu séduits. Parce que, bah voilà, tu l'as dit, ils ont trouvé leur identité, ils ont trouvé leur dynamique entre eux. Ils sont agréables à voilà, c'est enfin ils sont agréables, ils sont agréables à, ils sont plus agréables à détester, on va dire, que avant. Et donc bah ils passent à autre chose tout en restant, enfin il y a toujours aussi ce côté un petit peu tentaculaire du Judgment Day qui est pas mal, hein. Ils sont toujours dans plusieurs programmes un peu en même temps, donc il y a toujours cette histoire avec Ray évidemment, et donc ils se tournent déjà aussi vers potentiellement un autre programme, donc AJ Styles, et l'arrivée des Good Brothers, bah écoute, c'était bien fait, moi j'ai trouvé que c'était encore une fois c'était bien fait, c'est un thème récurrent de cette émission, les segments sont bien exécutés. La mise en scène est bien fichue. Voilà, cette fausse trahison d'AJ Styles, ce côté bras dans les bras avec le micro derrière, un plan sur Finn Balor, un plan sur AJ Styles, quand il a AJ Styles qui annonce, un plan sur Finn Balor qui apprend la nouvelle et qui d'un seul coup qui comprend pas ce qui se passe, et puis la musique des Good Brothers. Voilà, c'est pas compliqué, mais c'est bien fait, et ça fait que le segment est cool et que la surprise est bien accueillie. Donc écoute, retour... Retour sympa, moi ce que j'avais dit sur le Discord, je suis pas un grand fan des Good Brothers du tout en tant qu'équipe standalone, quoi. C'est des mecs qui en tag team m'ont jamais fait vibrer, je trouve qu'il leur manque un truc, je sais pas, je saurais pas comment dire. Mais par contre, en trio avec AJ Styles, je suis très content de les revoir, je trouve que c'est un trio qui marche bien. Et donc, écoute, why not? On est parti pour une petite rivalité de groupe là aussi. Donc très bien, ça va occuper tout ça et ça va continuer à nous, sans doute, nous proposer des segments micro qui vont être divertissants aussi. Donc, let's go.
Ouais, je te rejoins, effectivement. Voilà, Z aussi, voilà, comme c'était le nom de cette faction. Les Good Brothers, tu dis, ils reviennent. Je fais, ouais, d'accord, ok. Pas besoin d'eux. Mais effectivement, dans le giron, des gestades pour venir l'épauler. Et puis, bah, voilà, c'est comme ça, c'est l'ère des factions jusqu'à la Triple H. D'ailleurs, on va célébrer une faction ce soir. Triple H, il a fait quasiment bonne partie de sa carrière en étant dans des grosses factions devenues légendaires. Il aime les factions et voilà, une qui se recrée lors de ce season premier et qui va... offrir un programme plutôt sympa là en 3v3 avec The Judgment Day. J'espère que Rhea Ripley va pas trop disparaître dans l'équation, parce que voilà.
Oui, en effet.
Ouais. Voilà, là, elle a rien fait. J'aurais aimé qu'elle donne un coup de chaise ou j'en sais rien, enfin qu'elle fasse quelque chose. Toi, elle était plutôt en mode autour du ring là. Je sais pas.
Ouais, c'est vrai que. Faut voir si elle a les mêmes niveaux d'interaction physique qu'avec... Parce que apparemment pour cogner sur Rey Mysterio ou sur Edge, et là, il n'y a pas de problème, mais là, je sais pas, là, elle voulait pas.
Elle peut s'en prendre au grand galose, là, ça pourrait être sympa, un petit face-à-face.
Ça peut être rigolo,
entre les deux, là. Bon, écoute, on est backstage avec Byron Saxton, hein, qui a été rétrogradé. Hein. Byron Saxton,
retour. Voilà, c'est ça, exactement.
Interviewer. Il interview Bayley de Match Control. Voilà. C'était une soirée noire, hein, samedi, pour l'affection de Bayley et pour Bayley en particulier. C'était mon flop du pay-per-view. Bon, les filles disent, ouais, c'est bon, ça va aller, on va s'en sortir. Et puis, de toute façon, ce soir, il y a un match. Voilà. Gardent leurs yeux quand même sur Bianca Belair. Hein. Le nom de Bianca est balancé pendant l'interview. Et puis voilà, c'est la faction. Bayley est toujours là pour ses filles et ses filles sont toujours là pour Bayley. Et on a un match ce soir, justement, pour se refaire la nouille entre Bayley et Candice LeRae. Est-ce que Candice LeRae va faire comme son mari? Ils avaient perdu ensemble la semaine dernière, je crois. Vont-ils gagner ensemble cette semaine? Ben, peut-être, peut-être pas. On a donc Bayley qui utilise sa puissance et sa taille, hein, pour malmener la petite, la fée bleue, la Candice LeRae, ou la fée violette, je ne sais pas, pour dominer... une bonne partie du début du match, et puis ça s'échange, et puis ensuite c'est Candice LeRae qui se fait attaquer plusieurs fois au niveau du genou, donc Bayley qui cible le genou de Candice. Candice LeRae qui essaye de choper la victoire, un petit cradle là, et puis Dakota Kai, Io Sky qui l'attaque et qui se barre. Donc provoquant la victoire via disqualification de Candice LeRae, résultat officiel. Donc Candice LeRae qui gagne comme son mari, pas forcément de la même façon. Et puis on a Bianca Belair qui arrive pour essayer de sauver la pauvre Candice qui se fait un petit peu passer à tabac, mais elle se fait un petit peu éjecter également à son tour. Et puis je crois que ça se termine un petit peu comme ça, hein, au niveau de,
ouais,
de cette rivalité, de cette interaction dans la division féminine. Ah oui, je crois, il y a Bayley qui place quand même une descente du coude, je crois, sur Belair. Alors qu'elle avait elle passe une descente du cours sur Bianca Belair qui avait sa ceinture à ce moment-là, je crois, pour marquer qu'elle en a toujours après Bianca Belair. Cette histoire, mon beau Jessica, n'est pas terminée, tout simplement.
Ouais. Par contre, je sais pas dans quelle mesure on est censé en avoir quelque chose à faire. C'est vrai que c'est un peu. C'était un peu le trou d'air là, de l'émission, moi, de mon côté. Compliqué ce qu'elles ont pris dans la tronche Damage Control à Extreme Rules. Elles se sont heurtées au mur, Bianca Belair, toutes les trois, et ont été complètement défaites. Derrière ce petit segment de loser backstage... pas du tout heal, hein. En plus, hein, ouais, on est des copines, tu nous as tiré de la merde, on est là pour toi, et puis t'as Bayley qui, elle parle même pas tellement, elle a la tête dans le seau.
Bizarre.
Truc de loser, juste derrière, elle perd contre Candice LeRae, qui est un petit peu, encore une fois, hein, je continue, c'est une nobody complète, hein, pour le grand public. Hein, même si elle avait été présentée en grande trombe encore par les commentateurs il y a 2 semaines ou 3 semaines, c'est une défaite, enfin c'est un upset quoi, hein, c'est une défaite un peu terrible quand même pour Bayley encore, complètement clean. Et derrière la frustration là, des trois qui arrivent, et Bianca qui revient encore, je sais pas, on est un peu dans une boucle là, je vois pas trop, j'ai pas vu l'intérêt du segment en tout cas. Après, bon, écoute, c'est bien, Candice LeRae qui gagne un match, écoute, c'est bien, il faut construire aussi un petit peu, enfin, il faut donner des victoires un peu à d'autres personnes pour justement peut-être potentiellement sortir des boucles un peu convenues et avoir d'autres femmes sur qui s'appuyer dans la mid-card féminine. Donc, écoute, pourquoi pas. Mais bon, voilà, écoute, un peu fadoche, je sais pas trop comment ils veulent rebondir sur tout ça, parce que manifestement, ils veulent encore envoyer... Bayley sur Bianca Belair. Dans quelle mesure est-ce que nous, spectateurs, on est censé croire que cette fois elle aurait une chance après la déconvenue, la déroute totale, il va y avoir un peu de boulot quoi.
Ouais, je comprends pas effectivement. En plus, tu as bien fait de me corriger. J'ai menti en disant qu'elle avait gagné via une disqualification, mais non, tu as raison. Elle avait fait un petit paquet, là, je sais pas quoi. Elle avait gagné tout à fait clean. C'est seulement après qu'il y a eu le passage à tabac. Donc un autre upset là. Je comprends pas. Je comprends pas. En fait, tu peux pas écrire ça.
Bah, pas pour des heals, quoi, en fait.
Enfin, après ce qui s'est passé samedi, quoi. Déjà, d'une.
Ouais, c'est terrible. Faut les remettre en selle, un peu, les filles, là, parce que.
Fallait qu'elles gagnent de façon très démonstrative. Peu importe face à qui, Candice LeRae, ils auraient dû la démonter complètement, toi, et la passer à tabac, et éventuellement tu fais revenir Bianca Belair, qui elle peut pas s'en empêcher, toi, elle peut pas s'empêcher de se mêler des affaires des autres, tu vois ce que je veux dire, et elle vient, et là du coup ça relance, tu peux relancer éventuellement la rivalité, où t'as dit, bah attends, je croyais que tu t'étais débarrassé de moi, mais en fait tu peux pas t'en empêcher, toi, par exemple, dans ce cas-là, on continue.
Ouais, pourquoi pas.
Quelque chose de beaucoup plus naturel. Là, tu comprends pas finalement la légitimité de tout ça. Pourquoi en plus elles n'arrivent pas ? Ah bah attends, je comprends pas moi. On nous a montré avant le pay-per-view une faction qui arrivait enfin à dominer leurs adversaires face quoi, de façon démonstrative. Et là, on nous a redéfait le tout encore là en deux coups là, séquences.
C'est vrai qu'on en revient à ce qu'on disait lors de l'analyse d'Extreme Rules. C'est vrai que la déroute était totale, quoi. C'était une victoire implacable, indiscutable et définitive de Bianca Belair, quoi, qui a battu les trois toute seule dans un match sans disqualification pour garder sa ceinture. Enfin voilà, terminé, bonsoir, quoi. Donc c'est vrai que c'est très difficile d'accorder du crédit derrière à un segment pareil qui en plus ne met pas du tout en valeur celles qui ont perdu, quoi. Très difficile, ouais.
D'ailleurs, les petits, c'est l'anniversaire ce soir du Miz.
Eh oui.
Voilà. Celebration, incroyable. Maryse est magnifique, Miz est magnifique. On se retrouve sur le ring avec un beau décorum. C'est donc la grande célébration. Il y a une sculpture en glace du buste musculaire et magnifique du Miz. Il a une, il avait sa batte de baseball.
Oui.
C'était le Miz qui avait. Oui, c'était le Miz qui avait quitté.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était un de ses cadeaux. C'était le premier cadeau d'anniversaire du Miz backstage un petit peu plus tôt. Ouais. Un petit peu plus tôt.
Et le petit cadeau que tu donnes le matin, toi, au dire attends, le ouais, reste arrive ce soir.
Ouais. Donc... Rien qu'une petite batte de baseball, faut.
Oh là, je me demande ce que va être le reste. Ouais. Sur le ring, on a deux boules géantes, deux ballons géantes de la taille des. Ouais. Et voilà, en hommage au Kuimasu.
C'est vrai que je pensais que ce running gag était terminé, mais non.
À ton grand plaisir, ce n'est pas terminé. Là, on fait de la cheap hit sur les stars locales de baseball. Voilà. Et puis il y a un autre cadeau. Il y a un autre cadeau sur la table. Il soulève le cadeau. Et en fait, il y a la tête de Dexter Lewis qui apparaît en dessous. Donc il remet le cadeau par-dessus le paquet, tu sais, pour le faire disparaître. Et d'ailleurs, ça marche parce que quand il le relève, Dexter Lewis a disparu. Enfin, non, c'est pas ça. Il tabasse. Il prend sa batte de baseball et il tabasse le paquet.
Ouais.
Il tabasse le paquet cadeau.
Et après, il renverse la table et il y a plus personne. Franchement, c'était impressionnant, non? Il est passé par où? Moi, j'ai pas compris. Hein.
J'étais comme devant un spectacle de magicien.
C'était prestidigitateur là.
Ouais. La vache, honnêtement, je me demande encore comment ils ont fait parce que voilà, ça s'est fait en 5 secondes et enfin, je sais pas, elle où la trappe. C'est assez incroyable. Et puis, c'est panique totale et puis il réapparaît et il attaque le Miz. La pauvre Maryse se retrouve la tête dans le gâteau. C'est la débandade et Dexter Lewis d'ailleurs chope un gâteau et coupe une part et éclate les deux boules géantes du Miz et mange son morceau de gâteau dans une folie totale. Les gens hurlaient mange un bout de gâteau.
Ouais.
Bah, d'accord, mange un bout de gâteau.
Pas de problème.
Ça n'avance clairement, ça n'avance toujours pas ce truc. À part,
mais non.
À part qu'il y a eu un match qui est booké par la DX backstage. Pour entre les deux la semaine prochaine par Road Dogg, qui d'ailleurs c'est très drôle parce que Road Dogg qui avait été viré du staff, il faisait partie de l'équipe de scénaristes et de bookers, il a été viré, puis là Triple H l'a réengagé évidemment. Il a réengagé tous les poteaux et il fait ah bah maintenant que je peux, d'ailleurs je boucle le match la semaine prochaine.
Ouais, c'était assez drôle. Ouais.
Bon bah on va peut-être avancer peut-être.
Enfin, j'ai envie de dire enfin, ça y est, ils ont peut-être fini d'égrener toutes les idées d'intro de Dexter Lewis qu'ils avaient en stock. Et donc c'était peut-être la dernière en effet. Donc enfin on va avoir un match parce que ouais franchement honnêtement ça commençait. Moi je trouve que ça commence à devenir très très long et un petit peu relou à force. Donc ok parce que bon, au demeurant voilà encore une fois segment réussi parce que globalement individuellement pris tous les segments sont réussis hein, depuis je trouve maintenant plusieurs semaines. Mais ouais, il est temps quand même qu'on sache un petit peu ce que veut Dexter Lewis et que ça se castagne un peu quoi. Donc ok, donc voilà, on a eu un segment assez rigolo. Moi, je suis toujours content de revoir les deux grosses boules du Miz sur ma télé, donc ça me fait toujours plaisir. et puis bah ouais, manifestement, en plus il y a une belle pop pour Dexter Lewis. Bon, après ils s'inventent un peu des vies les mecs, hein, parce que le discours de Road Dogg en arrière-plan, genre. Si vous allez régler ça dans un match et s'il gagne, il aura un contrat et sinon si il perd, il est parti à jamais. Genre en fait d'où tu peux donc ça veut dire que le mec en fait il kidnappe le Miz pépère à la télé depuis 10 semaines mais il a pas de contrat et comment ça marche en fait il y a deux trois trucs parfois où je sais qu'il faut suspendre son incrédulité mais tu vois, quand c'est vraiment trop stupide comme ça, moi, c'est vrai que ça me gonfle un peu. Et les mecs, ils s'inventaient un peu des lives quand même, j'ai trouvé, à la fin, d'essayer de justifier une sorte de booking de match. Mais je trouvais que c'était extrêmement feignant, intellectuellement parlant. Et du coup, si tu gagnes, il est parti à jamais. Donc, ok. Mais donc, d'où qui décide ça? C'est toi, c'est Road Dogg. Donc...
le mec,
ouais. Donc, c'est quoi en fait? Comment tu peux décider un truc comme ça? Ou alors, c'est-à-dire que Dexter Lewis, il bosse pour toi? Je comprends pas. Enfin, en fait, c'est quoi le délire? Je trouvais que c'était pas génial ça. Mais...
Non, bon, je suis d'accord. Le booking du match était assez.
On va avoir un match.
Ouais.
C'est extrêmement paresseux, je trouve. Mais bon. Mais bon, voilà, écoute, on a un match, donc on va voir ce qu'il va donner notre ami Dexter entre les cordes.
J'ai juste l'impression qu'on a un petit peu sauté les étapes, quoi. Ça fait 2 mois ouais. qu'on était sur les mêmes scénettes de Miss qui se fait kidnapper, puis tout d'un coup, on est dans le match, quoi. On nous boucle le match.
On nous parle de contrat, de
contrat.
Pourquoi vous faites chier avec ça? Enfin oui, c'est comme si ça faisait des semaines que le mec en fait réclamait un contrat. Tu vois, non, personne en a jamais parlé de ça. Donc,
c'est ses motivations, ces choses-là.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est ça qui est motivé, c'était d'avoir un contrat. Et ils ont juste fait une.
Peut-être, il a rien trouvé d'autre que de kidnapper un mec toutes les semaines pour avoir un contrat.
Ça marche et ça marche. Donc vous savez, si vous voulez postuler,
vous savez quoi faire. Exactement. C'est la morale de l'histoire, c'est que ça fonctionne.
Voilà. Vous kidnappez le patron de chez Total et puis vous aurez un contrat. Et
peut-être que vous aurez une augmentation ou un contrat.
Une belle prime. Bon, allez, nous, ça voilà, il n'y a pas de blocus à catch-up. On continue sur l'analyse de cet épisode de Monday Night Raw. Puisque Bobby Lashley est là ce soir. Non, on a eu un match de Moss,
ouais.
Il s'est débarrassé de deux jobbers locaux. Ouais.
Qui avait été hypé un peu par la DX en backstage, c'était rigolo.
Il s'invente vraiment une vie, hein, parce que là, franchement.
Ouais, il s'invente des lives un peu, les mecs.
Hein. MVP porte une casquette avec son coaster maintenant, je sais pas. Le mec, il se prend pour un youpin. Là.
Bon, ils sont en roue libre, là.
Ouais, n'importe quoi, le mec. Sûrement, il avait perdu un pari. Ouais. On a. Qu'est-ce qu'on
Bobby.
A Ouais, Bobby. Bobby est là ce soir et il nous dit qu'il est un champion, hein, c'est ça, un champion combatif.
Oui.
Voilà, c'est il a battu tout le monde d'ailleurs. Il cite Roman Reigns. Oh, j'essaie de me souvenir quand est-ce qu'il avait battu Roman Reigns. Bobby Lashley, peut-être il y a longtemps avant qu'il ait.
Ouais, peut-être il y a très longtemps, je sais pas, ou alors par DQ ou un truc, enfin je sais pas, mais c'est vrai que j'ai pas souvenir de.
Ouais, c'est assez, je me suis dit, le mec, oula, calme-toi, il fait, j'ai.
Je voyais pas à quoi il fait référence.
D'ailleurs, Roman Reigns, Brock Lesnar, Seth Rollins, ce soir, parce qu'il y a un match entre les deux qui est booké, entre Seth Rollins et Bobby Lashley, et donc il est là un peu pour nous en parler. Mais tout d'un coup, la musique, une musique très connue, retentit dans le Barclays Center, c'est. Musique de la bête, Brock Lesnar est là, Brock Lesnar est de retour. Alors, grosse surprise pour l'arrivée de Brock Lesnar. Brock Lesnar qui fait des checks, il est avec son petit chapeau, il chope un micro, il y a des chants évidemment, les shit. Il est content d'être à Brooklyn. D'ailleurs, il fait une petite réplique, il lui dit, il appelle, je ne sais plus comment il fait, parce qu'il fait un peu référence aux répliques. Il avait fait le coup du Bobby Woo. Pendant leur rivalité, il disait Bobby, comment
genre qu'il ne connaissait
pas. Ouais. Et je crois que là, il l'appelle Bobby Lashley. Enfin, tu vois, il le reconnaît, quoi. Donc, ouais. Donc c'est déjà une petite victoire pour Bobby Lashley. Mais il n'a pas le temps de la savourer, puisqu'il se bouffe un gros S5. Et après, il se fait démonter à coup de German Suplex à droite, à gauche. Et puis, un dernier F5. Et la foule est en folie. Et puis, ça commence à partir un peu chelou, parce qu'il place quand même Bobby Lashley dans un Kimura Lock pour lui péter le bras gauche. Ouais. Et là, tu ne sais plus trop.
Ouais, là, tu sais plus là.
Tu sais plus si tu vraiment l'encourages.
Mais merde, attends, on est censé encourager ça ou pas?
C'était assez bizarre. Et d'ailleurs, quand il repart, il refait des checks en repartant. Le pauvre Bobby vient de se faire démonter, lui qui était devenu super over, top babyface, effectivement champion combatif.
Je crois que Brock Lesnar, il a transcendé la notion de heel face et tout. C'est pas sa problématique à lui. Tu vois.
Non, il s'en fout. Et bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? Seth Rollins, c'est tel une vipère, un chacun arrive et débarque et il demande le match qu'on lui avait promis. Et Bobby dit d'accord, toi, après quelques provocations de Bobby de la part de Seth Rollins, qui notamment met en doute son esprit de soldat. Hein, parce qu'il a une carrière dans l'armée.
Ça, c'est terrible, ça. Terrible.
Ça, il lui dit, t'es un loser, t'es même
on ne peut pas faire ça.
Même pas un soldat, t'es rien du tout. Alors, Bobby, il fait, quoi ? USA, et il remonte. Et puis, il remonte, alors, il n'aurait jamais dû remonter, puisque malgré tous ses efforts, toute sa puissance, il va perdre ce match. Seth Rollins va placer le curbstone pour la victoire. 1, 2, 3, Seth freaking Rollins est à nouveau champion US. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas touché d'or, notre ami Seth Rollins, ce soir, c'est réparé, mon bon Giscard.
C'est ça, C'est ça, c'est réparé pour Seth Rollins. Non, écoute, truc de ouf. Hein. Moi, enfin, je sais pas comment t'étais, mais enfin, c'est moi quand j'ai entendu la musique de Lesnar, j'ai seul coup, c'est le genre de truc où je regardais pas le show d'un œil, mais tu sais, bon, voilà, je l'ai sur un écran et tout. Oh, putain, j'ai entendu la musique de Lesnar, bam, d'un seul coup, ça snap sur l'écran, j'ai bouche grande ouverte, j'ai what the fuck. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, énorme surprise, énorme pop, incroyable retour de Lesnar. Et puis après, énorme segment, je trouve, énorme enchaînement d'événements, quoi. Enfin, vraiment, on est passé un peu par toutes les émotions là en 5 minutes, tu l'as dit. Même le public ne savait plus sur quel pied danser, entre la joie de retrouver Lesnar et en même temps ce beatdown un peu bizarre, vicieux, enfin, avec cette Kimura presque dispensable en quelque sorte, c'est envie de dire. C'est bon, t'as fait ton retour, t'as fait ton.
Kimura,
c'est la Kimura de trop, exactement, qui aurait pu lui valoir d'ailleurs des huées quand même. Hein, et puis après, derrière, c'est arrivé évidemment du chacal, parce qu'on avait vu Seth Rollins hein, qui est en backstage un peu plus tôt dans l'émission avec son gros bandage sur le ventre pour vendre son match d'Extreme Rules et le fait qu'il était un peu diminué. Donc là, d'un seul coup, le rapport de force qui bascule complètement et cette victoire, Seth Rollins qui retrouve un titre, Bobby Lashley humilié, Brock Lesnar qui revient là-dedans. Enfin, c'est ultra excitant. J'ai trouvé que c'est de voir Brock Lesnar en fait se réintégrer dans un programme de pure mid-card comme ça, c'est complètement inédit. Hein. C'est vrai que Brock Lesnar depuis 10 ans, depuis qu'il est revenu à la depuis qu'il est revenu à la WWE, Brock Lesnar c'est le main event ou rien, et c'est même, j'ai même envie de dire, c'est même le main event de pay-per-view ou rien, c'est-à-dire que même les weekly, c'est assez sporadique, il vient, il parle, et voilà, et là, il s'intègre dans un programme de worker, en quelque sorte, hein, parce que c'est un programme de mid-card, la ceinture US, Seth Rollins, Bobby Lashley, qu'est-ce qui va sortir de tout ça, est-ce que Bobby Lashley, est-ce que ça va être un truc croisé à trois, est-ce qu'il va peut-être vouloir se déclarer pour le titre US, comment il s'inscrit un petit peu dans cette nouvelle saison de Monday Night Raw, je trouve que c'est vachement intriguant. J'ai adoré, j'ai trouvé que c'était super intense comme moment et cette victoire de Seth Rollins qui rebat en plus un petit peu les cartes, c'est sympa de le revoir avec une ceinture et on va voir comment Bobby Lashley rebondit. Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses, très excitant, un changement de titre qui fait du bien, parce que c'est vrai que Bobby Lashley, finalement, alors c'est un peu triste, ça ne fait que commencer, hein, évidemment, mais voilà, si on l'éloigne complètement du titre US, je trouve que c'est un petit peu frustrant, parce que finalement, Bobby Lashley, il y a quelques semaines, il avait réussi à retrouver un peu de...
Vraiment de
motivation, il était là backstage, avec des interactions, il était à la
cool, fighting champion et tout. Et finalement, il était super over, hein, franchement.
Méga over. Mais finalement, ils n'ont pas trop poussé ce côté fighting champion. Toi, c'était pas comme si toutes les semaines, il y avait un open challenge, Bobby Lashley et tout. Donc, je me disais, il va faire durer peut-être un petit peu le truc. Puis finalement, tu vois, Seth Rollins récupère la ceinture. Alors, tant mieux, très bien, c'est bien. Au final, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour les trois hommes qui, en plus... S'ils ont une rivalité croisée là pendant les premières semaines, ça peut vraiment vraiment être cool, quoi. C'est vraiment, enfin, on a là quand même quasi, on a les trois main eventers de Monday Night Raw, autour d'un titre de mid card.
Ouais, moi j'imagine déjà là, franchement, parce que Bobby Lashley va vouloir évidemment se venger des deux. Et puis j'imagine déjà les petits segments où t'as Seth Rollins en backstage qui va parader, qui va faire le malin à rigoler avec sa ceinture, et puis là il va peut-être croiser le chemin de Brock Lesnar qui va le regarder droit dans les yeux, dire hop garçon, tu sais quand même pourquoi t'as gagné, et puis le mec il va se pisser dessus et tout. Il y a plein de choses, quoi. Il y a pas mal de trucs à faire, quoi. Donc, et puis vu que ça implique Seth Rollins en plus, je suis content, donc.
C'est très excitant. Le retour d'Elias aussi, très excitant. La semaine prochaine, qui est annoncé. Grand, grand, grand retour de notre drifter préféré, qui va nous composer. Sûrement, il aura eu le temps de nous composer un nouvel album, là, j'espère. Hein.
J'espère.
Petite vidéo de Bray Wyatt qu'on n'aura pas vue ce soir. Peut-être on le verra à SmackDown. Hein. Visiblement, on m'a dit qu'il avait un contrat léger, lui aussi. Bon, bah écoute, hein, Bray Wyatt, il nous a éblouis, il a subjugué, hypnotisé ce samedi soir. Là, il nous a juste passé une petite vidéo un peu cryptique. Là,
ils sont bien foutus de notre gueule quand même, hein, à nous hyper le retour de Bray Wyatt toute la soirée pour en fait finalement rediffuser.
J'étais impatient. Longtemps, j'avais pas regardé mon intro d'une seule traite.
Ils sont bien foutus de notre gueule. Hein. Mais c'est bien joué, hein, pour les ratings, je pense, parce qu'ils ont gardé tout le monde. monde pendant 2 heures avec oui, ce truc.
Ça fait des records hein, en termes de rating, en termes d'audience. Là, ce season premier, il était très malin, Triple H. Il sait comment faire pour gonfler les chiffres artificiellement, je ne sais pas, parce que les gens étaient vraiment devant leur télé. Mais c'est vrai que pour ceux qui espéraient revoir physiquement en chair en autre Bray Wyatt, ils ont été un petit peu déçus. On a quand même eu droit à une vidéo avec de Bray Wyatt qui a dû être tournée en même temps que l'une des vidéos de samedi soir, puisqu'il a toujours son masque là, son nouveau masque qu'il porte. Et il nous dit qu'il était, il pensait être libre dans sa prison qu'il s'était créée lui-même, hein, sa prison mentale. Alors, on peut penser évidemment à la Firefly Funhouse notamment, mais que voilà, c'était une erreur. Et il nous dit de reveal in what you are, donc c'est genre assume, enfin soit qui tu es vraiment quoi, soit ouais viens comme tu es comme on dit pour une célèbre.
Ouais c'est ça comme à McDo.
Comme mec rendez-vous au McDo, c'est peut-être un nouvel indice sur là où il apparaîtra la prochaine fois, je ne sais pas, il y a tellement d'indices maintenant. Donc rendez-vous au McDonald's des Champs-Élysées ce soir à 23h30. Pour retrouver Bray Wyatt. Bon voilà cryptique, on s'est bien foutu de notre gueule quand même, ça c'est sûr.
Oui. Exactement.
Le match de Sami Zayn, bon, ça t'a plu ? Tu veux t'as regardé quand même ? Non, c'est bon.
De quoi ?
Bray Wyatt, ça t'intrigue toujours quand même ?
Ah ouais, non, oui, oui, évidemment, évidemment. Bah, du coup, j'étais frustré. Mais bon, bah, écoute, voilà, on verra ça. Voilà, ils vont nous garder comme ça, ces enfoirés. Ouais.
Sami Zayn qui débarque avec les Ouzo, puisque Roman Reigns, pendant qu'il faisait visiter la ville à Silo aussi quoi, il a demandé à Jay de garder un œil sur Sami Zayn. D'ailleurs, j'étais même étonné que Jimmy soit là, mais on verra plus tard que ça avait son importance. Puisque après 10 minutes de gros match entre Riddle et Sami Zayn, Jay essaye de venir l'aider en fait, parce que Roman Reigns a dit « Attention, hein, Jay, il faut que Zayn y gagne, hein, Sami doit gagner ce soir. » Que Jay, bah, il essaie d'intervenir pendant le match, mais Sami Zayn l'en empêche, dit « Non, je m'en occuper tout seul. » Malheureusement, c'est un petit peu compliqué. Notamment sur cette fin de match, mon bon Riscal, quand Riddle, j'allais t'appeler Riscal, mon bon Riscal, commence à prendre le dessus et que Jimmy va intervenir, mais Jake fait « Ah non, il a dit qu'il voulait gérer tout ça tout seul, il gère ouais. tout seul. » Vicieux, mais bien content, toi, il lui donnait une petite leçon. Eh ben, il n'en faut pas plus, 1, 2, 3, après un gros RKO pour la victoire de Matt Riddle et donc la défaite de Sami Zayn. Alors, certes, Jay... Il est content de son coup parce qu'il a, voilà, il s'est un peu vengé de Sami en faisant ce que lui a demandé. Mais j'en connais un qui va se faire peut-être un petit peu tirer les oreilles très bientôt là.
Eh oui. Non, écoute, voilà, en effet, comment je trouve très bien booké un match entre deux mecs de haut profil qui ne doivent pas perdre en quelque sorte, mais tout en racontant des choses et en ne pénalisant personne, au contraire. Donc j'ai trouvé que c'était très bien. On garde un max de momentum sur Riddle qui enchaîne deux belles victoires, hein, avec sa victoire au Fight Pit contre Seth Rollins quand même, et puis maintenant qui gagne en main event de Raw contre Sami Zayn. Et puis en même temps, bah voilà, Sami Zayn il a perdu certes, mais il a perdu parce que il est parasité, il est pollué par tout ce qui se passe autour, voilà cette storyline intestine là entre lui et les frangins Ousso, et ce Jey Ousso jaloux qui essaye d'exposer la fraude Sami Zayn à tout son clan en mode regardez, voilà, c'est un clown en fait, c'est juste un clown, qu'est-ce que c'est que... Et donc c'est bien joué, donc voilà, on imagine déjà les prochaines promos en mode bah attendez, c'est pas de ma faute, j'ai essayé de l'aider deux fois, il a refusé. Sami Zayn va peut-être devoir se justifier aussi, donc ça va être assez marrant à suivre. Bien joué, peut-être un poil long. Je regrette quoi qu'il arrive. Je trouve ça aurait pas dû être le main event du show. Enfin, le main event, ça aurait dû être ce dont on a parlé juste avant. Hein. J'ai pas très bien compris cet enchaînement. Je pense que en plus, Matt Riddle, Sami Zayn, c'était pas un match qui était advertised, enfin qui était annoncé avant l'émission, alors que vous avez matraqué.
C'est devenu le match main event de par le véritable main event qu'il y avait derrière. On pouvait pas enchaîner le retour de Brock Lesnar avec ce qui va suivre derrière. Ça aurait
j'ai trouvé que c'était un peu triste. Mais bon, écoute, en tout cas, encore une fois, c'est un trait, un caractère caractéristique de ce show. Les développements d'histoire et les segments ont été encore une fois très bien exécutés. J'ai trouvé que c'était bien fichu, c'était organique, c'était bien raconté, bien exécuté. Et puis en plus servi dans un match qui n'était pas déplaisant. C'était cool de voir Sami Zayn catcher pendant un quart d'heure, c'est assez rare. Et puis ils ont gardé vraiment le match long pour la fin d'émission au lieu d'en disséminer un peu partout. Donc c'est pareil, je trouve que ça tranche un peu avec ce qu'on avait pu voir par le passé. Donc c'était bon boulot pour continuer à nous donner envie de voir la suite.
Ouais, effectivement, voilà, on continue dans cette qualité d'écriture dont on a fait les louanges en début d'analyse. Et comme je le disais, pourquoi on a eu ce match-là en main event? Peut-être parce qu'on a eu cette célébration des 25 ans de la DX en clôture de show, en fin de show, et que du coup, il fallait un petit peu ventiler et pas trop bouffer, trop rogner sur l'ego trip de Triple H et de ses poteaux. Voilà, franchement, ça n'avait... C'était pas la folie, hein, cette célébration. Juste un petit trip des vieux papys là, qui font de la résistance et qui disent on est toujours là, on n'est pas mort. Enfin, si, il y en a une qui est morte d'ailleurs, on la salue bien bas, ouais. China.
C'est marrant parce que t'as HBK qui dit quand même les gars, par contre, si on est encore là dans 25 ans, dites-le nous, hein, dites-le nous d'arrêter, quoi. Ouais, tuez-nous.
Effectivement, oui, ils en ont conscience quand même, ils en ont conscience. C'était pas grandiose, mais c'était pas non plus. Comment dire, agaçant, toi, ça pas trop bouffé le show, toi, ça pas trop bouffé.
Ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'est ce que j'aurais dit, c'est que j'ai trouvé que c'était exactement ce qu'il fallait. J'ai trouvé, enfin, ouais. je suis de même d'ailleurs agréablement surpris, franchement, de Triple H et de ses copains. Ils ont pas du tout court-circuité l'émission. Un petit segment dans la Gorilla Position, comme t'as dit en début de show. Tout léger, marrant, avec ce petit gag de voir Triple H avec ses lunettes se lever en mode « Attendez, je bosse là, qu'est-ce que vous faites ?» Donc c'était très rigolo. Et puis un petit segment de 2 minutes là, en fin d'émission avec une petite promo, les catchphrases, tout le monde repart content chez soi. Franchement, je suis bluffé, c'était très très léger. Et c'est juste ce qu'il fallait pour faire un petit shout-out, là, comme ils disent. Là, on est là, merci, et puis à plus quoi.
Bon voilà, on craint plus vraiment à dire hein, sur cette séquence où tout le monde était heureux, content de faire des croix avec ses jambes. Tout le monde a balancé sa promo.
Petit clin d'œil à Billy Gunn.
Parce qu'il a l'intro des New Age Outlaws. Et c'est le public qui faisait la partie de Billy Gunn qui est de l'autre côté, hein, qui est chez les qui est chez les Bees. D'ailleurs, ils ont fait une petite blague sur son gimmick des ciseaux. Là, il y a un gimmick de ciseaux avec sa tag team. Donc c'est plutôt...
C'était pareil, c'était mignon, c'était touchant, j'ai trouvé. Exactement. C'était sympa de faire ça.
C'est plutôt bon esprit. C'est ça, quand on est tout en haut, on peut avoir un petit peu de bienveillance vis-à-vis de ceux qui essayent de se prendre pour des concurrents. Donc c'est plutôt bienvenu de la part de Triple H, le roi des rois et de toute sa clique de sale gosse. C'est comme ça que c'est terminé ce show, mon bon Giscard. Et donc c'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu veux bien nous partager top, flop et ta note, s'il te plaît?
Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Écoute ma note. Je vais mettre un magnifique 4 cette semaine. J'ai beaucoup apprécié ce Raw. Je l'ai trouvé qui a volé, là, qui a filé. J'ai pas vu le temps passer. Je me suis beaucoup amusé. J'ai trouvé que c'était beaucoup mieux équilibré. Alors certes, il n'y aura pas des petits caméos DX toutes les semaines et tout, mais je trouve qu'on avait retrouvé une construction de show, moi, qui me convient mieux, avec des matchs un peu plus courts, des segments vraiment fun, des promos. On a retrouvé un petit peu de loufoquerie, là, avec l'anniversaire du Miz, avec les segments des DX et tout. J'ai envie d'avoir des trucs aussi un peu légers. Je trouve qu'on avait un petit peu mis trop ça sous l'été noir depuis quelques semaines, avec 4-5 matchs d'un quart d'heure parfois dans l'émission, et plus trop ces petits moments de répit qui te font dire quand même que tu regardes la WWE et que t'es aussi là pour te marrer un petit peu et pas juste voir du catch. Donc je trouvais que le show était très équilibré, les segments étaient excellents dans leur ensemble, beaucoup de développement de storyline qui m'ont plu. Je vais pas plus haut parce qu'il y avait quand même des faiblesses, on l'a dit, il y avait des temps faibles, il y avait des trucs qui m'ont un petit peu questionné avec Austin Theory, Johnny Gargano et puis le passage des filles. Et les filles qui auront mon flop parce que un peu de facto c'était, je trouve, le moment le plus faible de l'émission de loin. Je suis très perplexe je reviendrai pas parce qu'on écoutait l'analyse d'Extreme Rules pour savoir tout ce qu'on a dit déjà sur la défaite de Bayley face à Bianca Belair, mais là ce damage control qui continue à occuper l'espace, mais sans, en ayant perdu quasiment toute substance, je trouve. Enfin, j'avais l'impression de voir presque une coquille vide là, du groupe qu'ils avaient construit pendant 2 mois. Donc j'étais très déçu, ouais, de ce petit passage. Et mon top, bah écoute, là pour le coup, il y a de quoi piocher, mais je suis obligé de le donner à ce segment d'intro qui pour moi était exceptionnel. C'est plus que de l'acteur studio. Les mecs sont à la fois des super catcheurs et en même temps des super acteurs. Enfin, c'est la synthèse de tout ce qu'on aime voir, je trouve, à la WWE. C'est des segments narrés mais super bien incarnés comme ça et entrecoupés de matchs. Voilà, je trouve que ces promos là sont ultra importantes dans des shows de catch, en tout cas pour moi. C'est aussi pour ça que je regarde Raw. Et je trouvais que cette intro, voilà, était géniale. Sami Zayn, tout le monde est génial en fait dans cette stable, donc top.
Bah écoute, mon flop, c'est le même que toi. Franchement, tu l'as dit, une coquille vide. Ça m'a rendu triste en fait, mais triste vraiment. Moi, ce passage de Bailey, moi qui étais tellement content de la revoir, qui adorait, ouais, voilà, une faction. Ça va, elles vont bouger les lignes, toi, elles vont tout démonter en fait. Toi, elles vont foutre le bordel. Ok, c'est.
Limite, ah bah, elle a pas foutu le bordel longtemps. Hein.
Non, je me dis, bon, je veux bien faire mon deuil sur le fait qu'elle chope pas le titre, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Surtout si derrière, ça peut revenir à quelqu'un d'autre. Toi, je dis, ah, peut-être il y a replay, ouais, ce serait cool et tout. Donc, ok, je veux bien, pourquoi pas. Mais là, ce qu'on a vu, là, c'est quoi? C'est de la tristesse, quoi. C'est la fête est finie, toi. Et l'absence de raison, vraiment, de les remettre dans la course, toi. Pourquoi? Je sais pas, il y a vraiment là un défaut d'écriture, là, c'est un abandon, on en a abandonné.
Ouais, il manque un truc.
On peut pas abandonner. Mon top, c'est un petit peu le même que toi. C'est vrai que c'est assez formidable tout ce qu'il y a autour de la Bloodline. Donc, bah écoute, je vais quand même le donner, allez, à Rey Mysterio, parce que ça m'a beaucoup touché cet acting.
Il mérite.
Il mérite, il mérite, parce que je suis pas sûr. Je sais pas si il va réussir à retrouver tout cet acting. Ce sera son chef-d'œuvre. Hein, son chef-d'œuvre d'acting à Rey Mysterio dans cette rivalité incestueuse avec son fils.
Ouais, je sais pas si c'est le terme.
parce que je pense à Rhea Ripley en même temps et tout, c'est assez bizarre.
Ah, ouais,
je l'ai appelé papa et tout. Enfin, il y a des trucs chelous, on sait pas trop ce qui se passe hein, quand même.
Ouais, c'est très étrange, on sait pas ce qui se passe. Ouais.
Mais cela ne nous regarde pas. Par contre, ce qui vous regarde, c'est ma note. Et ma note, je suis à 3,75.
Voilà. Il est pas loin.
Je suis pas loin. On a quand même un petit creux là au début, et puis des drôles de trucs avec les carrés, le Gargano. Là, il commence à m'agacer ces deux-là, Gargano et le Rey, à gagner. Alors qu'ils devraient pas gagner. Faut pas faire ça. C'est pas bien. Mais c'était quand même un excellent season premier, une nouvelle saison qui commence pour Mojisca, pour nous. On est reparti pour un tour.
C'est reparti.
Et on est très impatient de voir la suite. Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE chaque semaine. Vous le retrouvez tout sur toutes les plateformes de podcast habituelles. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit. En plus, tous les liens sont dans la description, notamment les réseaux sociaux, c'est Catch Up CDC pour Twitter, Facebook, Instagram. Le lien vers notre Discord est dans la description. N'oubliez pas également de participer à nos pronostics. Le prochain pay-per-view, c'est celui en Arabie Saoudite, j'imagine. Donc, on devrait.
Écoute, je crois que oui, c'est ça, en effet.
Ouais, les Survivor Series, c'est après. En tout cas, merci à toi, Giscal, de m'avoir rejoint pour l'analyse de ce season premier exceptionnel.
Eh bien, merci, Irem, de m'avoir accueilli une nouvelle fois pour ce season premier. En effet, tu as raison, exceptionnel et qui annonce des belles choses tout de même, hein, malgré voilà, les petits points noirs, ça et là.
Allez, on vous remercie évidemment et on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Ciao, ciao tout le monde. Faut leur dépoter, c'est ça ?